France Culture.
Est-ce que vous pouvez nous donner trois mots pour décrire ou qualifier votre Bosnie-Herzégovine?
Oh, rahat.
La douceur de vivre.
La douceur de vivre.
Ljubav.
L'amour.
L'amour.
La nature.
La nature.
Spécialité bosnienne.
Un joueur de foot.
Un joueur de foot.
Royaume.
Bosnie-Herzégovine, 1995-2025. La solitude des Bosniens. Aline Kateu, Yael Mandelbaum.
Il y a beaucoup de trinité hein, qui, qui peut être... un autre jour, peut-être, j'inventerai quelque chose d'autre. Disons... Planine, rieke, poésie. Voilà. Traduction. Alors, les montagnes, les rivières et la poésie. Ouais. On ne compte pas les articles définis.
Épisode 1. Je ne me suis pas battu pour ça. Depuis plus d'un quart de siècle que je parcours, vis ou travaille en Bosnie-Herzégovine, une question revient sans relâche à son sujet. Comment parler de ce pays que les médias et la recherche représentent depuis des décennies comme compliqué, voire incompréhensible? Essentiellement scruté à la loupe de ses divisions, de ses institutions politiques, la Bosnie-Herzégovine est devenue ce pays figé dans sa douleur, ses ruines, ses victimes, ses tensions.
Welcome. What is this? In the radio station.
Recorder.
A recorder.
Yeah.
Ah, okay.
Là, il y a un peu des embouteillages, donc si ça vous va, on va passer par la rive ouest de Sarajevo. C'est la fin du week-end. Il y a du monde sur la route. C'est la catastrophe. Il m'a fallu une heure pour revenir du centre-ville. Vous avez vécu longtemps ici?
Ma Bosnie-Herzégovine, celle que je connais intimement, celle que je fréquente assidûment, celle que j'observe avec attention et surtout faite de luttes, petites et grandes, quotidiennes et invisibles, solitaires et dures à mener.
Normalement, je devrais cacher le nom de ma compagnie quand je passe par la République Srpska. On a des problèmes des fois. Regardez le collègue là. Lui, il a caché le nom de la compagnie Sarajevo Taxi. En fait, c'est interdit. Ma compagnie de taxi n'a pas le droit de passer par la République Srpska. Regardez là, c'est un collègue de la même compagnie de taxi que moi. Lui, il n'a pas caché le nom. Ça peut finir avec la police qui te menace, mais bon.
Les Bosniens luttent, se débrouillent, font preuve d'une persistance et d'une créativité qui ne cessent de me surprendre depuis 25 ans. Et il en faut de la persistance et de la créativité pour survivre à cet état malveillant, adoubé par une communauté internationale désormais plus intéressée par les ressources naturelles de la Bosnie-Herzégovine que par l'exercice de l'état de droit.
Ici, il faut comprendre qu'il n'y a pas de problème entre les gens. Le problème, c'est la politique. Entre les gens, il n'y a pas de problème. Si on enlevait ou si on enfermait les politiciens, il n'y aurait plus aucun problème dans le pays. Et si on laissait faire les gens, tout irait mieux.
Les Bosniens mènent leur bataille seuls, sans alliés, sans interlocuteurs. Leur solitude est abyssale, et je crois que c'est en grande partie elle qui me ramène régulièrement parmi eux,
Je pense que si les élections n'étaient pas truquées, ça ferait longtemps qu'on serait débarrassé de ces nationalistes idiots. Regardez la plaque de Mladic, ne l'entend plus, elle est là. C'est moche, c'est terrible. Si quelqu'un de mon peuple avait tué et commis des crimes, je le condamnerais. Ça ne me viendrait pas à l'idée de le célébrer. Pourquoi tu vas faire du mal à des gens? Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Adnan, Abdullah? Vous savez que Sarajevo est un territoire ultra multiculturel. On a des églises, des mosquées, des synagogues. Ça ne pose de problème à personne aujourd'hui de savoir qui est quoi. Tuer des gens juste parce qu'ils sont musulmans, serbes ou croates, c'est l'enfer pour tous. Les politiciens sont des crapules, ce sont le mal. Ce pays est magnifique, on pourrait tous y vivre sans aucun problème. Mais non, eux, ils veulent se faire un maximum d'argent, ils sont corrompus.
Cette série documentaire entend donc dresser un portrait sensible de cette société bosnienne au sortir de 3 décennies d'une paix libérale qui ne jure que par réconciliation, dialogue et multiculturalisme, mais fait la place belle aux ethno-nationalistes belligérants d'hier, maîtres du pays aujourd'hui. Pourquoi s'être battu hier? Comment se battre aujourd'hui? Avoir survécu hier pour survivre aujourd'hui? Tenter de se souvenir d'hier pour pouvoir écrire aujourd'hui, lutter aujourd'hui pour pouvoir vivre demain, portrait d'une Bosnie-Herzégovine vivante.
Imala sam sreću da odrastam u radničkoj porodici, ali ipak da je to bila porodica boljeg materijalnog stanja.
Merci Damir Setović.
Porodica koja je bila orijentirana na to da mi kao
j'ai eu la chance de grandir dans une famille ouvrière.
Da moramo biti samostalne.
Mais aussi dans des conditions matérielles relativement confortables.
Jer je to neka sigurnost da kao žena ne
dans notre famille, l'éducation des filles était une priorité.
Jednostavno zatvorena.
Nous devions pouvoir être indépendantes.
Ja nisam rasla u takvom okruženju. Otac je jako insistirao.
Gagner notre vie sans dépendre de quiconque.
Tako da sam ja po završetku srednje škole.
Car c'était la garantie qu'en tant que femme, nous ne perdrions pas notre liberté.
To je bilo tako taj moj neki background koji me pratio od
que nous ne resterions pas enfermés à la maison.
Da sam bila jako politički angažovana.
J'ai donc grandi dans ces valeurs.
Neke saveze koji su postojali.
Mon père insistait énormément sur notre éducation et donc après le lycée, je suis rentrée à l'université.
Nama omladini mogućnost da se družimo, da jako puno putujemo.
Ce qui était aussi important depuis toujours, c'est que j'étais assez engagée politiquement dans tous les comités de jeunesse yougoslave.
Jednostavno izrastamo.
Cela nous donnait l'opportunité de nous rencontrer, de voyager, d'explorer notre Yougoslavie, d'apprendre à l'aimer et ainsi de grandir et de devenir des adultes responsables. Toutes ces activités participaient à la construction de notre patriotisme et de l'idée qu'on devait défendre le pays qu'on aimait tant. C'est comme ça que j'ai vécu jusqu'en 1992. Et puis certains ont décidé de démembrer la Yougoslavie. J'étais déjà mariée, j'avais un enfant de 3 ans. Le 1er mars 1992, nous sommes allés voter au référendum d'indépendance et nous avons dit, puisque tout le monde quitte la Yougoslavie, nous souhaitons nous aussi que notre République de Bosnie-Herzégovine devienne indépendante. Ce que nous n'avions pas vu venir, c'est que certains diraient « Non, vous ne pouvez pas être indépendant, vous pouvez seulement faire partie de tel ou tel autre pays. » Les citoyens de Bosnie-Herzégovine n'étaient pas prêts à cela.
Hrabrošću i zajednički prolivenom krvlju boraca bosansko-hercegovačkih, hrvatskih, crnogorskih i srpskih brigada slavne jugoslovenske armije zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih rodoljuba, Srba, muslimana i Hrvata, 6. aprila 1945. godine, oslobođeno je Sarajevo, glavni grad Narodne republike Bosne i Hercegovine. Grâce à leur bravoure et au sang qui a coulé collectivement, les combattants bosniens et herzégoviniens, croates, monténégrins et serbes, des brigades de la célèbre armée de Yougoslavie, grâce à leurs efforts collectifs et au sacrifice des patriotes sarajeviens, serbes, musulmans et croates, le 6 avril 1945, Sarajevo est libéré. Sarajevo, la capitale de la République populaire de Bosnie-Herzégovine. Gloire éternelle et merci aux héros qui sont tombés pour la libération de Sarajevo et pour notre patrie en cette première année de sa liberté. Sarajevo reconnaissante. C'est un endroit qui est extrêmement connu dans toute l'ancienne Yougoslavie et particulièrement Bosnie-Herzégovine. Aussi parce qu'on dit que la flamme ne s'est pas éteinte même pendant la guerre. Et que la seule fois où elle s'est éteinte de toute son histoire, c'était pendant les pénuries de gaz à l'automne 2009 et que c'est le capitalisme qui a réussi à faire éteindre la flamme. Donc souvent, quand il y a des touristes d'ex-Yougoslavie qui viennent, ou des gens aussi de la diaspora, ils viennent ici se faire prendre en photo. C'est vraiment un symbole très très fort.
Après 45 ans d'existence, la République populaire fédérative socialiste de Yougoslavie est mise à mort par les ambitions nationalistes grand serbes de Slobodan Milošević. Le pays est démembré dans la violence. Les guerres yougoslaves durent 8 ans. Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, de 1991 à 1999, la Yougoslavie n'en finit plus d'expirer son dernier souffle. C'est en Bosnie-Herzégovine que la guerre fut la plus longue et la plus sanglante. Cette république mixte est habitée par différentes communautés dotées de riches cultures. Les Bosniaques musulmans, les Croates catholiques, les Serbes orthodoxes et tous ceux qui ne se reconnaissent dans aucun de ces groupes et ne veulent que rester yougoslaves. Mais les Bosniens sont réduits à leur appartenance ethnique par les ethno-nationalistes ainsi que par la presse étrangère. Ils deviennent les enjeux de cette guerre car il faut homogénéiser les territoires pour mieux les contrôler. C'est la tâche à laquelle s'attellent tout d'abord les ethno-nationalistes serbes à partir de 1992, puis leur alter ego croate à partir de 1993. Sarajevo, la capitale, est attaquée puis assiégée par l'armée des Serbes de Bosnie à partir d'avril 1992. La défense de la République attaquée s'organise sans grands moyens, dans la stupeur de la violence. L'armée qui se constitue petit à petit est un mélange de militaires et de civils qui rejoignent ses rangs pour se défendre. Parmi eux, de nombreuses femmes, comme Namira, Mersida et Meldiana. Elles nous reçoivent dans le bureau de l'association des femmes membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans un immeuble fatigué d'Ali Pacino Polje, quartier à l'architecture socialiste étonnamment calme et vert. L'association, fondée il y a moins de 2 ans, travaille à la reconnaissance d'un statut pour les femmes de l'armée bosnienne. Les femmes n'étaient en effet pas mobilisables. Celles qui se sont engagées l'ont fait sur la base du volontariat. Aujourd'hui, elles n'ont donc pas le statut de vétérane. Pas de droit, pas de pension, pas de prise en charge médicale d'éventuelles séquelles. Elles n'existent pas dans le récit de la défense du pays.
Namira Tomković.
Poslije završene srednje škole, to je bilo nekako kad je bila i olimpijada u Sarajevu, odlučila sam se da nastavim
građanski fakultet. J'ai toujours été intéressée par les sciences techniques.
Jer mi je to bilo srodno, a i nekako u suštini mog bića
uvijek
sam htjela nešto da gradim.
Au moment des Jeux olympiques d'hiver à Sarajevo en 1984, mislim da je to j'ai commencé la faculté de travaux publics.
Kad se rodite. Tako da, evo, rat me zatekao na
c'était tout à fait naturel, car j'ai toujours voulu construire des ponts, des maisons, des routes. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes prédestinés.
Mada su nam naši prijatelji katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti.
La guerre m'a surprise lors de ma deuxième année à la fac. J'avais 22 ans.
Međutim, mi u to nismo vjerovali. Ja lično nisam bila spremna na to.
On n'était pas conscient de ce qui nous attendait, même si des amis catholiques et orthodoxes nous avaient prévenu qu'ils avaient eu des informations et que la guerre allait éclater.
Agresija na Bosnu i Hercegovinu i ja sam se
Personne
našla
n'y croyait.
Daleko od svog
Personnellement, j'y croyais pas du tout.
Prijatelja zarobljena, nisam mogla da lasna ispite, to mi jako teško padalo.
C'était Bayram, le nouvel an musulman.
Stvarno,
C'était le printemps.
Jednostavno napadnuti i
Je suis rentrée à la maison en avril. L'agression sur la Bosnie et Herzégovine a commencé. Je me suis retrouvée loin de ma faculté, de mes amis. J'étais bloquée là où j'étais. Je n'ai pas pu aller passer mes examens. J'étais effondrée. J'ai dû accepter la situation. Nous étions attaqués et il fallait se défendre. Toute ma famille a rejoint l'armée de Bosnie-Herzégovine. Un de mes frères était soldat, l'autre dans la défense territoriale. Ce qui est important d'expliquer, c'est qu'en tant qu'élève, nous avions eu dans le système éducatif yougoslave des cours qu'on appelait défense et protection. On savait se défendre. On avait appris à se comporter dans des situations dangereuses, comment organiser son quotidien, comment se servir d'armes à feu en cas d'attaque. On savait donc déjà à peu près ce qu'on devait faire. On a organisé les unités de défense. Quand on est attaqué, il est naturel de défendre sa vie, sa famille. Toute la famille était déjà dans l'armée, surtout mes frères, mon père. Ma mère cuisinait pour l'armée. Ma sœur travaillait dans une usine d'armement. Et donc j'ai fini par rejoindre moi aussi les rangs de l'armée. Il s'agissait d'un poste administratif. Je n'étais pas sur la ligne de front. J'étais impliqué dans les plans de défense de Sarajevo, la capitale. Le déclencheur de mon engagement, ça a été la blessure grave de mon frère. Il avait 1% de chance de s'en sortir. De ma révolte est né mon engagement dans l'armée. Tout le monde s'y opposait, et je n'ai pas cédé. Aujourd'hui, mon frère est vivant. Il est marié, il a 2 enfants. Il a continué sa vie, tout comme moi.
La violence qui se déploie est avant tout tournée contre les populations civiles. Déplacements forcés, emprisonnement dans des camps de concentration qui réapparaissent sur le sol européen, tortures, viols constituent ce qu'on a appelé le nettoyage ethnique, principal outil des forces serbes et croates pour s'assurer le pouvoir sur les territoires conquis. On voit également réapparaître les sièges de villes, comme ceux de Goražde, Mostar, Srebrenica, Jepa, ville-prison, ville-camp dont les populations sont soumises à la faim, à la soif, à l'absence d'électricité, de soins. Le siège de Sarajevo, la capitale bosnienne, dure 1425 jours, 44 mois durant lesquels les forces serbes bombardent la ville. Ce sont au total plus de 50 000 tonnes de projectiles mortels qui tentent de faire plier Sarajevo. À partir du printemps 1993, les forces croates ouvrent un deuxième front dans l'espoir de s'accaparer leur propre territoire, la Bosnie centrale, mais surtout la région méridionale d'Herzégovine, vivent un enfer. Mostar, sa capitale, en sortira détruite à 80%. 60% de sa population déplacée. Les camps de concentration de l'Héliodrome ou de Dretelj n'ont rien à envier à ceux de Prijedor, au nord, tenus par les forces serbes. La passivité de la communauté internationale est sidérante. Soumise à un embargo sur les armes, l'armée de Bosnie-Herzégovine tient bon. L'Union européenne et les États-Unis patinent sur ce conflit qui n'intéresse pas grand monde au final. Déférence envers les agresseurs, dédain pour les victimes, l'attitude de la communauté internationale et de l'ONU pendant la guerre
préfigure de ce qu'elle sera en temps de paix. Un grand rien très flou, comblé à coups de milliards, dont une large partie finira dans les poches des cercles politiques bosniens.
Je suis Nihad Hasanović, je suis écrivain, né à Bihać, c'est une petite ville au nord-ouest de Bosnie-Herzégovine. C'est une région de Bihać. Bihać était la ville la plus importante de cette région, et la région a été encerclée par les forces serbes pendant plus de 3 ans. Si on emploie la définition du dictionnaire, je suis par définition vétéran, mais il y a aussi d'autres définitions qui sont stipulées par la loi en Bosnie-Herzégovine, ce que ça signifie être vétéran. Alors ça, je crois que c'est plus de 3 ans de service et d'autres choses. Je ne sais pas précisément, mais je ne considère pas cette population des vétérans en tant qu'une population très, très différente, très... comment dire, différencié du reste de la population. Nous, en tant que jeunes gens, nous étions obligés de participer à la défense et où nous avons choisi. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi à participer à la défense de ma ville où je suis né, de Bihać. J'avais 18 ans. 18 ans et un mois, je crois, quand je me suis inscrit volontairement à l'armée bosnienne. Alors c'était quelque chose... ce statut ne peut pas être comparable au statut, par exemple, des soldats américains professionnels qui ont participé à une invasion américaine dans un pays étranger. C'est quelque chose d'autre. Nous étions forcés à défendre nos villes et le pays où nous vivions. Dans la plupart des cas, c'était même pas le patriotisme qui nous a guidés, c'est la pure désir de rester vivant et de protéger sa propre dignité en tant que personne humaine. Et alors être vétéran aujourd'hui, ça veut dire continuer à vivre comme tous les autres de ta génération. Essayer de débrouiller, de trouver des modalités économiques pour survivre. C'est pas quelque chose de... C'est pas un privilège. Peut-être à l'exception de certains gens qui avaient des mérites particuliers. Mais en général, la plupart de l'ex-participants de l'ex-membre de l'armée bosnienne, bon, c'est pas quelque chose, pas grand-chose.
Amer Delić, vétéran.
Oui, c'est ça la situation des vétérans après la guerre. Ils n'ont acquis aucun droit. À moins d'être décoré ou reconnu comme invalide de guerre ou d'être membre d'une organisation de vétérans, vous êtes à la marge. Je fais partie de ces invisibles. Beaucoup d'entre eux se sentent blessés. Ils ont été utilisés puis jetés dans les poubelles de l'histoire. Dans toutes les armées qui se sont battues ici, vous pouvez trouver ce type de personnes. Les associations de vétérans sont ni plus ni moins que des filiales des partis politiques. Leurs membres ont quelques petites ressources et revenus. Pour le reste, l'État, avec ses ressources limitées, a réussi à assurer des pensions pour les médaillés et les invalides, ainsi que pour certaines catégories de victimes civiles de la guerre. Je ne vois pas en eux un potentiel de changement dans la société. Les associations menacent souvent de manifester, mais bon. Les vétérans s'occupent désormais de leur vie. 30 ans ont passé, beaucoup sont partis à l'étranger. Je le vois bien pour ceux de mon unité. J'en croise peut-être 2 ou 3 par an, pas plus. Les vétérans n'ont pas ici l'identité qu'ils ont dans les pays occidentaux, par exemple.
On va aller sur le pont, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, on traverse la Miliatska. On est sur le pont de Verbania. C'est un pont qui est célèbre parce que pendant les grandes manifs d'avril 92, les manifestations avaient lieu au pied du Parlement. Et les premières victimes sont tombées là, le 6 avril. Il y a un film incroyable qui s'appelle « C'est arrivé ce jour-là ». Il dit tout, c'est-à-dire que c'est vraiment la montée des manifestations anti-guerre. Il faut quand même comprendre que les gens veulent rester unis. Ils prennent d'assaut le Parlement, donc ils prennent le pouvoir. Ils demandent des armes pour défendre la ville. Ils font confiance au chef de la police de Sarajevo, qui était serbe à l'époque, pour défendre la ville. Il est acclamé. Donc il y a encore cette unité complète. Et pendant une des manifestations, du coup, devant le Parlement, on voit les gens qui manifestent et qui manifestent. Et il y a, des coups de feu qui partent. On arrive là sur la place du Parlement. Et sur les images, les images d'archives, on voit très bien. Ça me fait des émotions à chaque fois que j'en parle, mais on voit très bien la masse de gens partir dans trois directions opposées. Et dans ce documentaire, on voit ce reporter de la télé assez connu, qui a fait le journal de guerre pendant toute la guerre, qui commente les images d'archives et qui arrête les images en fait à la table de montage. Précisément à ce moment où on voit vraiment les gens se séparer, et il dit voilà, regardez, c'est la première seconde de guerre. Et en fait, il caractérise cette première seconde de guerre moins par les coups de feu que par les gens qui s'éparpillent et qui ne seront plus jamais ensemble comme auparavant. Vous voyez, c'était juste là. Alors on va quand même faire attention parce qu'on est dans l'enceinte du Parlement, donc on va sortir là avec les micros. Voilà, c'est là.
Vous êtes démobilisé en 95.
Ouais, ouais. Après, je crois la conclusion des accords de Dayton. Oui, c'était 1995.
Et alors, qu'est-ce que Nihad se dit à ce moment-là?
J'étais très heureux d'être vivant. Oui. Et quelques années après, jusqu'au début du nouveau millénaire. C'est comme une période un peu, comment dire, brouillée, vague. Je me rappelle que beaucoup de gens de ma génération, des vétérans, d'ex-soldats, ils ont bu beaucoup. Et c'était un chaos juridique dans le pays. Bien sûr, même aujourd'hui, nous ne trouvons pas dans une situation très joli, hein, mais à cette époque, c'était un désordre qui me fait penser à une sorte de cauchemar aussi. Mais comme j'ai déjà dit, j'étais ravi d'être vivant. C'était la chose la plus importante qui a marqué cette période.
Свирайте ми, Неманје.
accords de Dayton mettent fin à la violence. C'est à peu près leur seul mérite. Ils accouchent d'un pays désormais divisé, le district de Bochco, au nord-est, et de deux entités, la Republika Srpska et la Fédération croato-musulmane. Cette dernière est divisée en 10 cantons. Les institutions étatiques sont basées à Sarajevo, la capitale du pays. Ce sont donc 3 niveaux administratifs différents, 13 gouvernements dont rien ne vient harmoniser les lois, les fonctionnements, les politiques.
I'll try to explain it briefly. Yeah. So in normal countries you have one or two levels.
Dans la plupart des pays, il y a un ou deux niveaux d'administration.
Maybe canton, maybe, I don't know, maybe
par
state
exemple,
or
la ville, le canton ou l'État,
here
peu importe.
Four levels.
Ici, il y en a 4. Deux entités, un district,
10 cantons,
10 cantons,
180
ministères.
We don't have one ministry of culture, but four.
Nous n'avons pas un, mais 4 ministères de la culture à des niveaux différents d'administration.
And everything that, when you put it together, is divided by 3.
Et tout est divisé en 3.
Because you have Bosniaks, Serbs and Croats.
Entre les Serbes, les Croates
then you have
et les Bosniaques
rest,
musulmans.
Constantly fighting to make something different.
Et puis il y a ceux qu'on appelle les autres,
country,
qui n'appartiennent à aucune de ces catégories et qui se battent pour essayer d'améliorer les choses. Et tu mets tout ça ensemble, c'est le bazar.
What I said, ethnicity, administrative levels, politics, like in all of this, then each of these.
Même si j'essayais de connecter tous les points que je viens de mentionner, l'ethnicité, les niveaux administratifs, politiques, chacun de ces 3 peuples constituants a de bien trop nombreux partis politiques.
I don't even know how this country functions.
Et quand tu mélanges tout ça, je ne sais même pas comment ce pays fonctionne. Tout ce que je pourrais dire maintenant serait de trop, je crois. Auditeurs français, googlez la Bosnie-Herzégovine.
Cette organisation administrative complexe fait du service public le plus gros employeur du pays. Il est entièrement aux mains des partis politiques qui en ont fait l'un de leurs outils de contrôle les plus redoutables. Il est impossible d'y être employé sans la recommandation d'un parti. L'extrême décentralisation du pays a de plus donné naissance à de véritables fiefs tenus par les criminels d'hier et d'aujourd'hui et favorisé une corruption et un clientélisme que rien ne jugule. Le pays est de plus sous l'autorité d'un haut représentant international compétent sur tous les aspects de la vie politique puisqu'il peut démettre tout élu de ses fonctions, promulguer des lois, en abolir d'autres. Ce haut représentant et ses pouvoirs font de facto de la Bosnie-Herzégovine un semi-protectorat au cœur de l'Europe. C'est ce que nous explique Leila Bicacic, directrice du Centre de journalisme d'investigation. Média totalement indépendant basé à Sarajevo, le CIN se concentre sur les affaires de corruption dans tous les recoins de la société bosnienne et publie ses informations sur son site.
Les gens comprennent tout à fait que ce pays est seulement pour ceux qui sont proches des élites politiques de tous bords. La différence entre ici et les régimes autocratiques où ce même système opère est que nous, nous avons 3 oligarchies à cause de l'architecture administrative du pays. Vous devez trouver votre propre groupe, votre groupe ethnique, celui qui va vous protéger. Vous devez vous rapprocher du leader de ce groupe, sinon vous n'êtes rien, vous êtes seul. La division ethnique est confortable pour les politiciens, car ils ont construit leur pouvoir sur le fait qu'ils sont là pour protéger leur propre groupe ethnique et que tous les autres sont des ennemis. C'est toujours eux contre nous. Eux sont les ennemis. Eux sont des partis politiques. Eux sont des groupes ethniques différents. Eux sont les étrangers. Tout le monde veut nous faire du mal, et c'est comme ça qu'ils conquièrent et gouvernent leurs supporters. La peur est d'avoir l'unité entre les groupes. Cela leur ferait perdre leur pouvoir.
Il est donc difficile de trouver des interstices où se frayer un abri dans cette société bosnienne ethnicisée dans ses moindres recoins.
Pourtant, malgré l'injonction d'appartenance à un groupe ou à un autre, l'imposition d'une division artificielle, certains continuent de croire à l'unité et au collectif. C'est le cas d'Amer Delic et du Centre d'Action Non-Violente basé à Sarajevo.
C'est une longue histoire. Pendant la guerre, déjà, j'ai eu des contacts avec ceux qu'on appelait nos ennemis. J'ai compris que le seul avenir possible ici pouvait se construire en s'appuyant sur le dialogue, le temps passé ensemble afin qu'il n'y ait plus jamais la guerre. C'est ça que j'ai compris pendant la guerre au travers d'une situation incroyable. Je n'avais plus de cigarettes et je vois que ceux d'en face en avaient. Alors je demande s'ils ont des cigarettes. Et l'un d'eux me répond, oui, mais viens la chercher. C'était pendant une trêve. J'y suis allé et là, je découvre mon ennemi, un type comme moi. Jusque-là, je ne m'étais pas demandé à quoi il ressemblait vraiment. Je devais penser à eux comme à un genre de vampire. Donc, je me retrouve devant un type comme moi. On a discuté, il avait été amené sur la ligne de front. Après ça, j'ai fait connaissance d'autres gars de son unité. Et certains de mon unité ont eux aussi, en quelque sorte, noué des liens. Ça paraissait dingue. J'ai tout de suite décidé qu'après la guerre, je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour ouvrir le dialogue avec ces soi-disant ennemis. Je ferais tout ce que je peux en ce sens. Mais après la guerre, le sujet même de la guerre était tabou. Peu de gens étaient ouverts à la discussion. Après, j'ai essayé de me joindre à quelques organisations, mais personne ne voulait entendre parler de ça et tout le monde se tenait à distance des anciens combattants. Ils nous voyaient comme des malades, traumatisés, alcooliques, violents, meurtriers. C'était vraiment difficile d'établir un contact. Tout le monde était plein de préjugés, mais aussi de peur. Et puis en 1997, le Centre pour l'Action Non-Violente a été créé et a immédiatement commencé à réfléchir au potentiel des anciens combattants dans l'activisme non-violent et pacifiste. À quel point leur expérience pouvait servir. Leur position pacifiste, après avoir traversé une telle violence, pouvait servir l'activisme anti-guerre dans la société bosnienne. C'est ensuite qu'ils m'ont contacté. J'ai accepté tout de suite et suis venu rencontrer les vétérans des autres armées. C'est comme ça que tout a commencé. Quand on rassemble les anciens d'armées différentes, en fait, en général, cela se passe sur recommandation. Un de ceux avec qui on a déjà collaboré nous dit « Lui-là, il est intéressé. On va le rencontrer, lui ou son organisation. » Ceux qui nous contactent par téléphone ou par mail, bien sûr, on les reçoit aussi, mais on doit être prudent, car dans le passé, c'est arrivé que des gars qui étaient en train d'être jugés pour crimes de guerre cherchent à intégrer le centre d'action non-violente. On doit être prudent. Mais en général, il n'y a aucun problème. Notre seule limite, c'est nos capacités en tant qu'équipe à intégrer tout le monde, à inclure tout le monde quand on va, par exemple, à une commémoration ou visiter un ancien lieu de combat. On doit limiter le nombre de gens qui viennent, mais sinon, on est en contact avec chacun, on répond à tout le monde. On les oriente sur des ateliers d'éducation pacifiste. Petit à petit, ils rencontrent du monde, s'intègrent, et c'est comme ça qu'au final, on a de vrais partenaires. Je ne vois pas d'obstacle qu'on ne puisse pas franchir. Il n'y a pas un endroit où je ne suis pas prêt à aller. Pareil pour mes collègues, on va parler à tout le monde, mais c'était plus simple avant. Tout était moins politisé il y a 10 ans qu'aujourd'hui. La situation ne cesse d'empirer, même s'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on fait des choses qui nous paraissaient impossibles il y a 20 ans.
Mais il arrive que certains qui font partie d'une organisation de vétérans veuillent faire des choses avec nous et qu'ils soient littéralement sabotés par leur organisation. Il y a eu des cas de vétérans qui ont collaboré avec nous et qui ont par la suite perdu leur place dans leur organisation.
Fondé en 1997 à Sarajevo par Nenad Vukosavljevic, lui-même objecteur de conscience, le Centre d'Action Non-Violente considère les vétérans comme acteurs clés du processus de réconciliation. Au travers de rencontres, d'ateliers de formation à l'action non-violente, de publications, de participation à différentes commémorations, mais aussi au repérage de lieux anonymes de souffrance de la dernière guerre, les vétérans des trois armées et les activistes du Centre d'Action Non-Violente mènent leur bataille dans l'unité, avec une calme détermination.
On se met d'accord entre nous sur les commémorations où l'on veut aller. On contacte les organisateurs. On se réunit, on leur explique qui on est, ce qu'on fait. Qu'on est une organisation pacifiste. Que notre mission, c'est qu'enfin on se réconcilie. Qu'on puisse tous venir rendre hommage aux victimes, que c'est notre mission. Ensuite, si les organisateurs disent qu'ils sont partants et que l'idée leur plaît, qu'on est les bienvenus, alors on reçoit une invitation. Parfois ils refusent notre venue, mais en général, ceux à qui on a l'opportunité de se présenter nous invitent et nous disent que c'est ce dont ils ont besoin. Alors on vient et le protocole change. Ces commémorations sont pleines de discours nationalistes, de drapeaux, de messages assez durs. Mais quand on vient, tout ça se calme un peu. Mais ce qui m'est le plus cher, c'est qu'on rencontre les familles des victimes. Jamais on a eu un mot de travers de leur part, jamais. Tous nous ont toujours serré la main en nous disant qu'ils sont heureux qu'on soit là. Avec le temps, j'ai compris que pour les familles de victimes, le plus important, c'est ça. Que quelqu'un assume ses responsabilités. On leur dise, on sait ce que vous avez perdu. On est désolé que quelqu'un ait fait ça en notre nom. On ne peut pas remonter le temps, mais au moins aujourd'hui, on peut vous offrir notre solidarité, partager votre douleur, déposer des fleurs. On est tous des êtres humains. Il nous appartient de construire un avenir débarrassé de la haine. Les faits ont été établis, il y a des victimes, des bourreaux, des donneurs d'ordre, des jugements aux tribunaux. Toutes les victimes sont égales et méritent qu'on se souvienne d'elles. Et il faut que toutes les parties prenantes reconnaissent leurs responsabilités et disent « Il y a eu des criminels dans ma communauté. Il faut les sanctionner, pas les célébrer ou nommer des rues à leur nom ou les défendre. » Commençons sur ces bases-là.
Partout en Bosnie-Herzégovine, les stigmates de la guerre sont encore visibles dans l'espace public. Sur les murs, dans les rues, les ruines sont également disséminées dans les villages, les montagnes, les plaines. Si la guerre a détruit le bâti, ce que l'on appelle la paix n'a pas apporté de répit ni de baume sur les blessures des villes bosniennes. L'urbanisme, lui aussi à la merci de la corruption et du clientélisme, transforme l'espace public en bazar impraticable pour ses habitants. Soigner la ville, c'est l'une des nombreuses missions que s'est fixée Dunja Krvavac, architecte et activiste urbaine.
Je ne me souviens pas de la guerre, mais j'en ressens les conséquences. Quand j'étais plus jeune et que mon père m'a expliqué « ça, ce sont les collines d'où les forces ennemies nous tiraient dessus », ça m'est resté en tête. Bien sûr, j'utilise maintenant ces collines comme lieu d'escapade. Le week-end, je vais sur Trebević.
C'est un endroit magnifique, proche de la ville. Mais j'ai toujours des émotions négatives très fortes au sujet de ces collines. Même si je ne parle que de mon expérience personnelle, je pense pouvoir généraliser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour les habitants de cette ville, quand je dis que parfois, on voudrait utiliser plus souvent et mieux l'espace public. Mais cela va prendre encore quelques décennies avant qu'on sache comment faire.
La société bosnienne n'est pas en bonne santé, ni au propre, ni au figuré. La guerre a laissé de très nombreuses traces dans la population, quelle que soit sa génération, son rôle et sa situation pendant la guerre. Personne n'a pu échapper aux multiples formes de violence qui se sont abattues sur le pays. S'il n'existe pas de statistiques officielles de santé, et qu'il est donc impossible d'établir un bilan clair des conséquences sanitaires de la guerre, il est en revanche clair que les maladies liées au stress, les problèmes liés à l'alcoolisme et à la toxicomanie, la violence au sein des familles sont des problèmes de santé publique. Les Bosniens sont restés seuls avec leurs souffrances, face à un système de santé victime de la corruption et à l'absence de compétences totales des ministères. Pas de politique de santé publique, pas de stratégie, départ des médecins bosniens vers l'étranger, achat des diplômes. Les Bosniens se tournent plus souvent vers les médecines alternatives ou remèdes trouvés sur Internet que vers leur système de santé qu'ils estiment dangereux.
Quand on parle post-ratnom sindromu. Ja sam svoj osvijestio možda 15 godina nakon rata.
Quand on parle de syndrome post-traumatique, le mien, je l'ai repéré 15 ans après la guerre. N'étais pas conscient de ça. Personne ne m'a dit « tu as un problème ». Cela se manifeste dans des circonstances différentes. Tu vois bien que tu n'es pas super fonctionnel, que tu ne dors pas, que tu bois trop, que tu es violent. Et là, tu commences à t'informer un peu. Encore aujourd'hui, beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. J'ai cherché de l'aide parce que je me rendais compte que je ne tournais pas rond. J'ai lu, j'ai appris quelques méthodes, différents exercices, et j'ai réagi à temps, mais j'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés, qui sont devenus alcooliques, toxicomanes, accro au pari, et qui ont tout perdu. Et je sais bien qu'avant, ils étaient des gens normaux. Beaucoup de personnes dans le pays ont participé activement à la guerre. Et nous n'avons pas d'institution qui s'occupe de nous et nous dit « Tu ne vas pas bien, tu devrais aller voir un psychologue, un psychiatre et puis te remettre sur les rails. » Nous sommes seuls face à ça.
Ces associations de vétérans, parfois simples succursales de partis politiques, ne sont qu'un exemple parmi d'autres. La corruption est bien au chaud dans le secteur associatif bosnien qui grouille de relais politiques plus que de compétences claires et efficaces. L'après-guerre regorge d'histoires de budgets destinés aux victimes, aux réfugiés, aux déplacés, aux souffrants, détournés par celles et ceux qui prétendent les représenter, les défendre, et qui se sont arrogés le droit de parler en leur nom. Le cynisme, décidément, n'épargne rien ni personne. Les méfaits de ce que de nombreux Bosniens nomment la mafia associative mettent des bâtons dans les roues de plus petites initiatives collectives qui ont du mal à se frayer un chemin en dehors des parcours balisés par les proches des partis politiques. Contenu, discours, il faut rester dans le rang.
That's the devastating point, but
c'est une réalité dévastatrice, mais c'est la vérité. Leila Bicic, c'est quelque chose dont les Bosniens sont très conscients.
They don't believe that the system will protect them.
Le système ne les protégera
That's
pas.
The reason why
l'apathie vient de là
you
aussi.
Have, youngsters, students, are looking to engage with the politics.
C'est la raison pour laquelle on voit aussi beaucoup de jeunes étudiants s'engager en politique. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent en tirer des bénéfices.
in the political structures. The
political parties. Le filet de sécurité se trouve dans les structures politiques. Les partis se comportent comme des organisations mafieuses. Avec un leader et des suiveurs. C'est ça le niveau de démocratie dans ce pays. Ce n'en est pas une. C'est un système clientéliste et népotique. Où la protection n'est accordée qu'aux fidèles. La vie des autres n'a pas de sens, n'a pas de valeur.
Comme étrangère ici en Bosnie-Herzégovine, j'ai vécu longtemps à Mostar, à Sarajevo, dans différents endroits. J'ai souvent entendu la phrase « mais je ne me suis pas battue pour ça, pour cette société-là ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette phrase-là ?
Meldjana Arnauta Selic. Oui, on ne s'est pas battu pour ça. Je ne me suis pas battu pour ça. Je me suis battu pour une Bosnie-Herzégovine et son intégrité territoriale, alors qu'il était déjà clair que la Yougoslavie n'existait plus. Je me suis battue pour qu'on ait notre pays à nous. Les accords de Dayton sont inapplicables tels quels. Ils ont transformé la Bosnie-Herzégovine en expérimentation de convalescence post-conflit qui dure depuis 30 ans. C'est pourquoi je dis nous ne nous sommes pas battus pour ça. Il faut distinguer les choses quand on parle d'un État, d'une patrie. Ça, c'est intouchable.
Ersida Mercetović.
Personne n'a de pays de rechange, d'État de réserve. C'est le seul que je reconnaisse. Celui où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai donné naissance à mes enfants, où j'ai mes petits-enfants.
Količinu korupcije, nedemokratije, političke upletenosti u sve pore društva.
Mais bon, je regarde ce qui se passe dans le monde autour de nous et je vois la corruption, la non-démocratie.
Jako nam je žao da čak i mlade generacije su.
La politique qui s'infiltre partout dans la société. Personne n'aime ça.
Sebe kao osobu mogu ostvariti samo kroz političke partije. Te političke partije omogućavaju da dođu do.
Et je suis désolée de voir que les jeunes pensent souvent qu'ils ne peuvent se faire une place ou n'obtenir un emploi que par les partis politiques.
For me, like my logic and my mind.
Mon esprit fonctionne de la façon suivante.
Dunja Kervavats.
Tu as un problème? Tu ne sais pas comment le régler, tu fais appel à quelqu'un qui sait. Vous réglez le problème ensemble et tout le monde est content. C'est le moyen le plus simple, le plus fonctionnel pour régler un problème. Vivre en bonne entente. Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça à Sarajevo. Je ne connais pas l'étendue du réseau politique tentaculaire qui s'immisce partout. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la corruption plutôt que de faire appel à des gens compétents. Mais je me suis retrouvée plus d'une fois dans une situation où j'ai travaillé, fait des consultations, et finalement, personne ne donne suite. Quand je dis personne, c'est le gouvernement, les politiciens, ou n'importe quelle administration.
Smallest parts of all the parts of my brain and my consciousness, I cannot say why and how.
Pas une cellule de mon cerveau n'est capable de comprendre pourquoi ils font ça.
To understand that my normality isn't everyone's normality.
Cela m'a pris des années pour comprendre que ma normalité n'est pas la normalité de tout le monde.
Having corrupted politicians that don't work, that don't do what they are supposed to.
Avoir des politiciens corrompus qui ne font pas ce pour quoi ils sont payés, des institutions politisées qui ne font pas leur boulot. Pendant très longtemps, tout ça, c'était complètement normal pour moi. Et puis j'ai commencé à voyager quand j'étais adolescente, aller partout en Europe, me faire des amis dans d'autres pays et comprendre que ma normalité et vivre dans une ville en ruine n'est pas la normalité de tout le monde. C'était très difficile à comprendre pour moi. À un niveau personnel, je pense que les choses peuvent encore changer, qu'elles changent avec le renouvellement de génération. Je n'ai plus 20 ans, j'ai 33 ans. On est en train tous de devenir des adultes sérieux qui peuvent faire des changements. Des politiciens nous demandent de produire ce changement. J'ai été approchée plusieurs fois au travers de mon association ou au travers de notre studio d'architectes où nous travaillons mon père et moi. Et on nous demande des choses qui n'auraient pas été possibles il y a 10 ou 15 ans. Donc les choses changent très lentement. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est si lent. Cela pourrait aller plus vite.
Épisode 1, je ne me suis pas battue pour ça. Merci à Melziana Arnaut-Aselic, Leila Bicakcic, Amer Delic, Nihad Hatsanovic, Dunja Krvavac, Mersida Meshetovic, Namira Tankovic, et merci au chauffeur de taxi rencontré à notre arrivée.
Quand vous êtes loin de Sarajevo, la ville vous manque.
Voix française, Gaëlle Gillon, Prudence Castello, Pauline Riba, Laetitia Hipp, Blanche Cluzet, Anne de Peufeyo, Bruno Forget.
Vous connaissez la devise ? Quand on boit une fois de l'eau dans la vieille ville, on revient toujours. J'ai habité partout. Je suis toujours revenu ici. Je rêvais des gens, des feux rouges, des rues. Et là, je me suis dit, bon ben, il faut rentrer. J'ai habité 4 ans à Udine, en Italie. C'était de 2010 à 2014. C'était une ville géniale, mais je ne pouvais plus. Je vois que vous êtes aussi une vraie Sarajevienne.
Prise de son, Nicolas Mathias, Manon Houssin, Marie-Claire Oumabadi, Mineta Diawara, François Saint-Jour. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Annelise Signoret, Archivina, Sylvia Monduc. Documentation musicale, Antoine Vuillose. Chargé de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Bosnie-Herzégovine, 1995-2025. La solitude des Bosniens. Une série documentaire d'Aline Cateux, réalisée par Yaël Mandelbaum. Thank you.